Bonsoir à chacun.
Je vous invite à lire avec moi une prière qui a été faite par David. Elle se trouve dans les psaumes et le chapitre 13. Psaume chapitre 13, verset 4.
Il s'agit d'une des nombreuses prières. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les prières qui ont été données au niveau des psaumes, mais il y a vraiment tout un arsenal qui est là et qui peut nous faire du bien. Des fois, on ne sait pas pourquoi prier. Et c'est des fois intéressant de lire les psaumes, ce que des hommes de Dieu inspirés par le Saint-Esprit ont pu faire comme prière. Ce soir, c'est une petite prière qui est là au milieu, que nous allons, sur laquelle nous allons nous attarder. Et il est dit ceci, psaume 13, verset 4, « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Maintenant, nous allons dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 22, où il s'agit maintenant plus d'une prière, mais d'un enseignement du Seigneur Jésus. Pendant qu'il est sur une montagne, il est en train d'enseigner les disciples qui se sont approchés de lui. Et il leur dit ceci, Matthieu, chapitre 6 et le verset 22, quelque chose qui a un rapport avec la prière que nous venons de lire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Jésus, au niveau de ce passage, nous donne un enseignement tellement simple et tellement abordable pour chacun de cette vie spirituelle. Et il compare la vie spirituelle à la vision, le principe de l'œil et de la lumière. Il est dit clairement, l'œil est la lampe du corps, c'est-à-dire que la lampe du corps, ce qui éclaire notre corps, c'est notre œil, tout simplement. Et l'œil, c'est cet instrument de la lumière qui permet, on le sait, de percevoir la lumière, et qui permet de distinguer les couleurs, qui permet de reconnaître les formes, qui permet d'estimer la taille, la position d'un objet, etc. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Et on est d'accord, il n'y a pas besoin d'explication plus loin que ça. Est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, la pupille se dilate dans votre œil ? Dilater, ça veut dire s'élargir, tout simplement pour qu'il y ait plus de lumière qui passe. Et certaines fois, quand il y a un manque de lumière, c'est à ce moment-là que notre œil doit s'ouvrir un peu plus pour capter le maximum de lumière. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la dernière parole de ce chant, quand il est dit au refrain, alors comment c'est dit ? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Et autant, de point de vue physique, quand nos yeux s'ouvrent, la lumière peut rentrer davantage que dans le domaine spirituel. Jésus est en train de parler du domaine spirituel, il ne parle pas des yeux physiques seulement. Il parle de cette réalité que quand nous ouvrons notre cœur, la lumière, la parole de Dieu peut véritablement faire une œuvre en nous. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement important de pouvoir percevoir la lumière spirituelle. C'est tellement important de pouvoir distinguer aussi le bien du mal. Il y en a dans notre monde, malheureusement, qui prennent le mal pour bien et le bien pour mal. Et inversent toutes ces choses. C'est important d'avoir un œil en bon état. C'est important de réfléchir aux vérités de la parole et de se laisser transformer, de les reconnaître comme des vérités, de les avoir goûtées, expérimentées. C'est important de pouvoir estimer notre état, où c'est que l'on en est. Est-ce que ce soir, vous pouvez, de manière claire, dire « voilà où c'est que j'en suis avec le Seigneur. Voilà où c'est que j'en suis par rapport à Dieu ». Est-ce que c'est quelque chose de clair ou est-ce que c'est quelque chose de flou? Il y a des personnes qui sont des fois dans la confusion par rapport au domaine spirituel, qui ne savent pas où c'est qu'ils en sont. Le principe de l'œil et de la lumière, comme je l'ai appelé, il est très simple. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles on ne voit pas. Soit il n'y a pas de lumière, soit c'est l'œil qui est en mauvais état. C'est ce que Jésus a expliqué et je l'ai résumé de manière très très condensée. Mais vous êtes d'accord avec ces principes? Qui n'est pas d'accord? Qui oserait lever la main et dire « je ne suis pas d'accord » Alors, je voudrais régler une chose pour ce soir, pour ce partage, c'est que la lumière, elle est là. La lumière spirituelle, elle est là et elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis toujours. La lumière divine est là et si nous considérons la première parole qui a été donnée dans la Bible, de la bouche de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dans la Genèse, que la lumière soit. Vous vous rendez compte que Dieu a choisi d'utiliser cette parole pour commencer. La première parole qui sort de sa bouche, c'est que la lumière soit. Bien avant que la création soit faite, bien avant que la terre ait pris forme, bien avant que le soleil soit mis dans les cieux, les étoiles et la lune, etc. Que la lumière soit. Et on comprend que c'est une lumière spirituelle. On comprend qu'avant même de créer tout l'univers, de créer les hommes, et les hommes avec leurs yeux pour voir la lumière physique, Dieu avait choisi de préparer ce plan merveilleux du salut pour l'humanité. Avant même que les hommes soient confrontés au problème du péché, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils apporter la lumière aux hommes. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous rassure? Savoir que quelle que soit l'épreuve que l'on va traverser, Dieu avait déjà prévu la solution auparavant. Moi, c'est quelque chose qui m'encourage, en tout cas. Et puis, non seulement il a dit cette parole, mais il a donné ses commandements. Il a donné au peuple d'Israël, quand ils étaient près du mont Horeb, il a donné la loi de l'Éternel. Et David a considéré cette loi en disant ceci dans le psaume 19, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » David est celui qui a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et on est d'accord, oui, la lumière, les yeux, on comprend très bien, mais il y a ce verset aussi dans les Proverbes chapitre 20 qui nous dit « L'esprit de l'homme, c'est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Il y a quelque chose dans notre existence, dans notre cœur, cette partie, pas l'organe physique du cœur, mais cette partie de notre être intérieur, notre esprit qui nous permet de pouvoir voir la lumière spirituelle. Un autre exemple de ce que cette lumière existe déjà, c'est que Dieu a donné son Fils. Jean, chapitre 8, verset 12, nous dit, cette parole de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Connaissez cette parole. Et quand Jésus continue d'enseigner, mais un peu plus loin, il dit, Jean, chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus a choisi de se personnifier en tant que la lumière du monde. Mais il a dit, c'est pour un temps, de manière temporaire, quand mon existence est de manière physique sur la terre, c'est, je suis la lumière du monde, mais une fois que je serai parti enlevé auprès du Père, c'est vous qui serez la lumière du monde, c'est-à-dire les disciples et ceux qui choisissent de marcher dans ses voies. Est-ce que vous savez, vous qui connaissez le Seigneur, que vous êtes la lumière du monde? Vous devez être, en tout cas, la lumière du monde. C'est-à-dire que vous devez tellement avoir reçu la lumière de Christ en vous que vous devez la refléter. Ça doit être quelque chose qui déborde. Un vase, quand il est rempli d'eau, il déborde. Et un être humain qui est rempli de la lumière de Christ, il doit déborder. Ça doit être quelque chose d'automatique. Souvent, on essaie de convaincre les gens à force d'arguments et de débats et d'opinions philosophiques et toutes sortes de choses, de pensées intelligentes pour leur faire comprendre que Dieu existe. Alors que Jésus nous dit non, soyez la lumière du monde. Les gens sont aveugles. Pour qu'ils puissent discerner que la lumière de Dieu existe, il faut que vous puissiez la refléter. Je pensais à l'histoire de cet homme. C'est un aveugle de naissance, pas une histoire de la Bible, un aveugle de naissance qui ne croyait pas à l'existence du soleil. C'était quelque chose pour lui de fou. Le soleil, ça n'existe pas. Et alors quelqu'un, des amis, nous ont dit, mais viens, on va faire une expérience. En plein hiver, alors qu'il faisait froid dehors, la neige et tout ce que vous voulez, ils le mettent au soleil. Et puis, au début, lui qui tremblait de froid, il commence à sentir une chaleur qui est là, il commence à se sentir bien, il commence à avoir une sensation de chaleur partout, sortir son manteau, sortir son pull. Et puis les gens leur disent, mais tu vois que le soleil existe puisque tu es en train d'avoir chaud. Et cet aveugle, il disait, mais vous n'allez pas me faire croire qu'il y a une boule immense en feu dans le ciel, qu'il n'y a aucun pilier qui est en train de la tenir, que ça tient tout seul comme ça, et que ça, c'est ça qui est en train de me réchauffer. Non, je crois que c'est plutôt la circulation de mon sang qui s'active quand je suis dehors. Est-ce que souvent on n'est pas comme cet aveugle né et à douter de l'existence de Dieu, alors qu'il y a des effets dans nos vies? Peut-être l'effet dans notre vie, c'est qu'on a parlé avec une personne qui était remplie de la lumière de Christ. Et on a ressenti quelque chose, on a expérimenté que cette personne a goûté vraiment la paix de Dieu. Que ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé, mais c'est quelque chose qu'elle a expérimenté vraiment. Ou alors c'est l'amour. ou alors c'est la grâce, le pardon, peu importe. Mais il y a quelque chose, un effet, comme la chaleur de ce soleil qui faisait dire à l'aveugle qu'il y a quelque chose qui se passait, mais qui pensait que ça venait de lui. Alors que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, ce sont des grâces. Toutes ces choses bonnes que le Seigneur nous permet de vivre, ce sont des grâces de sa part, mais pour nous montrer qu'il existe. Cette lumière existe depuis toujours. La lumière brille. Mais nous devons faire cette prière. Donne à mes yeux la clarté. Littéralement, ça veut dire éclaire mes yeux. Éclaire mes yeux de ta lumière. Le problème ne vient pas de la lumière. Je reviens à mon principe. Soit c'est la lumière le problème, soit c'est les yeux. Et il faut le dire ce soir, le problème dans nos cœurs, ce sont que les yeux de notre cœur sont fermés. Pourquoi les yeux de nos cœurs sont fermés? Parce qu'il y a des choses, tout simplement, qui abîment ou obstruent nos yeux spirituels. Il y a des choses qui rendent malades nos yeux. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous connaissez ce proverbe? Et certains, malheureusement, se complaisent, préfèrent les ténèbres. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, alors qu'il partage ce merveilleux verset, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », etc., etc. Mais il dit juste après, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand nos œuvres sont mauvaises, on préfère qu'il n'y ait pas de lumière. Imaginez que je vous dis que je suis le meilleur artiste au monde et que malheureusement la pièce soit totalement sombre et vous entendez que je fais des mouvements incroyables avec les pinceaux, que je bouscule toutes les choses, que je mets vraiment de la ferveur à dessiner. Je vous assure qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de lumière parce que le résultat sera horrible. Alors que quelqu'un, peut-être qui ne va rien dire, pas faire de gestes incroyables, mais qui va prendre son pinceau et avec finesse, quelqu'un qui sait peindre, va commencer à dessiner un portrait, et là, il y aura un résultat incroyable, mais on pourra voir la différence qu'à la lumière. Certains se complaisent dans les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, oui, mes œuvres sont bonnes? Ou est-ce que vos œuvres sont mauvaises? Jésus, dans ce passage, il parle de plusieurs exemples de choses qui peuvent altérer notre regard, qui peuvent nous amener à avoir les yeux fermés. On l'a lu le premier, c'est dans le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». À un moment donné, il faut choisir. C'est exactement comme si je vous disais maintenant, fixez en même temps cette enceinte-là et celle-ci. Physiquement, c'est impossible. À moins qu'on ait les yeux qui fassent certains chemins détournés. Vous comprenez? Et je garde l'image de l'œil, mais c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire. On est obligé de nous fixer sur l'un ou sur l'autre. Et spirituellement, c'est pareil, on ne peut pas se fixer sur Dieu et en même temps se fixer sur Mammon. Mammon, ça représente l'argent, ceux qui étaient possédés par l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait ce désir d'avoir des biens, d'avoir des richesses, d'avoir une situation, mais qui avait en même temps le désir de suivre Dieu. Et il y avait ce combat qui était dans leur cœur, mais à un moment donné, il y en a l'un ou l'autre qui est en train de remporter la victoire. Ce soir, peut-être qu'on a le cœur partagé, parce qu'il y a quelque chose qui est là, avec lequel on bataille, on croit en Dieu, on croit que Dieu existe, mais en même temps, il y a quelque chose qui prend beaucoup de place en nous. Le Seigneur nous invite à régler cette situation, parce que c'est quelque chose qui est en train de nous aveugler. C'est quelque chose qui nous empêche de le voir tel qu'il est. Quand on voit au chapitre 7 et le verset 3, il est dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Une poutre dans un œil, l'image elle est forte par elle-même, c'est quelque chose qui nous aveugle. Mais c'est question du jugement, est-ce qu'on n'est pas tendance à juger beaucoup plus les autres? Qui a cette qualité particulière, hyper développée, de pouvoir trouver les failles chez son voisin? On a tous cette qualité, il n'y a pas besoin de prendre des cours, tout le monde a cette qualité de naissance. Mais combien c'est un travail différent de d'abord regarder à soi et de se dire, mais est-ce que moi... est-ce que moi je suis sérieux? Est-ce que moi je fais ceci ou cela avant de le dire aux autres? Et si je n'ai pas cette attitude, si je suis dans le jugement, dans la critique, et constamment, je suis aveuglé, j'ai les yeux fermés. Encore un autre exemple au verset 25, il est dit de ne pas s'inquiéter pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Quand on regarde les informations, on a vite fait de désobéir à ce verset. et de s'inquiéter pour le corps, pour tout ce que vous voulez. On peut s'inquiéter pour la paix, on peut s'inquiéter pour le travail futur, on peut s'inquiéter pour toutes sortes de raisons quand on voit les informations, pour la sécurité. On a l'impression qu'il n'y a que des fous qui circulent partout dans la ville. Je ne sais pas si c'est le cas, que c'est les choses qui vous remontent quand vous voyez les informations. Combien on a besoin de Dieu pour ne pas s'inquiéter? Combien on a besoin de savoir que c'est Dieu, c'est Jésus qui a dit lui-même, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu, de votre nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je m'inquiète tellement pas que je ne vais pas travailler, j'attends que ça tombe du ciel. Le Seigneur est aussi équilibré dans ce qu'il nous demande, il dit tout homme qui travaille mérite salaire. Mais nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et le fait de s'inquiéter, c'est quelque chose qui altère encore notre vision, qui nous ferme nos yeux. Alors regardez encore au chapitre 5, verset... Au chapitre 6, verset 1er, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de Dieu qui est dans les cieux. » Le fait de faire les choses, mais pour être vu des hommes, c'est quelque chose qui altère notre vision spirituelle, qui nous ferme les yeux. Dieu nous demande de faire les choses comme si, en réalisant, pas, c'est pas comme si, c'est en réalisant que Dieu voit ce qu'on est en train de faire. Ce soir, il voit de quelle manière vous êtes venu dans ce lieu. Peut-être vous êtes venu pour vous faire voir des hommes, et c'est tellement dommage. Peut-être que vous êtes venu en disant, Seigneur, je veux que tu me parles. Et là, le Seigneur va pas le faire, parce qu'il est bon. Encore un autre exemple, et après on pourrait multiplier des dizaines et des dizaines. Regardez ce que contient tout cet enseignement du Seigneur Jésus. Je finis juste avec cet exemple. Matthieu 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Quand on a les yeux physiques qui sont utilisés pour la convoitise, pour désirer des choses qui sont impures aux yeux de Dieu, quand le désir que l'on a de ces choses est plus fort que ce que la Bible nous demande d'avoir comme désir, de la sainteté de comportement que la Bible nous demande d'avoir, mais nos yeux sont en mauvais état et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais finir cette liste avec ce verset qui montre que finalement tout cela est regroupé sous le nom de péché. Sophonie 1, verset 17 nous dit « Les hommes marcheront aveugles comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. » Il suffit que l'on soit pécheur et devant Dieu on est aveugle. Voilà la réalité. S'il n'y a qu'un seul même péché dans notre vie, nous sommes devant Dieu aveugles. Et le danger, c'est de fermer les yeux. Si nos yeux sont fermés, nous risquons, comme nous l'avons lu, de nous endormir du sommeil de la mort. Donne à mes yeux, Seigneur, la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Parce qu'il y a un sommeil, il y a un bon sommeil, qu'on va avoir tout à l'heure, mais il y a un sommeil tellement plus dangereux, tellement plus, aux conséquences tellement plus importantes, c'est le sommeil de la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, le fait que nous allons un jour tous mourir et que peut-être pour quelqu'un, il n'aura pas réglé son éternité, il n'aura pas réglé la question du péché dans sa vie, il n'aura pas réglé ce regard qui est totalement fermé, ses yeux fermés sur les réalités spirituelles. Ce qu'il attend, c'est la mort éternelle. La géhenne, l'enfer, toutes sortes de noms qui sont donnés. En tout cas, c'est le fait d'être séparé de la présence de Dieu pour l'éternité. Combien c'est un danger. Si nous sommes là ce soir, c'est aussi pour dire, ne fermez pas les yeux sur cette chose, sur cette réalité. Mais croyez que Dieu est capable de guérir les yeux. Je pensais à l'exemple, en réfléchissant à ces choses, je pensais à l'exemple de Bartimée. Vous connaissez cette histoire, Bartimée, qui est sur le bord du chemin, situation particulière, lui qui est le fils. Bartimée, ça veut dire le fils de Timée, le fils de l'honoré, celui qui devrait avoir une position sociale incroyable. Il se retrouve assis au bord du chemin, mendiant et aveugle. Et il est là dans son désespoir. Et puis tout à coup, il entend le bruit d'une foule qui passe. Et il entend que c'est Jésus qui est là et que c'est pour ça qu'il y a une foule qui le suit. Et parce qu'il entend que c'est Jésus, il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et les gens le font taire. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas embêter le maître ?» Et il crie encore plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrête, le fait venir, et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Cet homme répond tout simplement « Seigneur, que je recouvre la vue. » Est-ce que ce soir nous pouvons avoir cette honnêteté de dire cette prière que nous avons partagée ?« Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, parce que je crois que tu es celui qui guérit. Tu as guéri les aveugles de manière physique, mais je crois que tu as aussi cette capacité de guérir de manière spirituelle. D'ailleurs, quand on regarde dans Luc chapitre 4, on voit que la mission de Jésus, elle est claire. Dieu a envoyé Jésus sur la terre, et c'est quelque chose de clair pourquoi il est venu, pour proclamer aux aveugles, entre autres, le recouvrement de la vue. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui se reconnaît aveugle et qui veut dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. » Parce que on a besoin de Jésus. Sans Jésus, ça ne marchera jamais. Il y a des gens, des fois, on les entend dire « Moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a une force surnaturelle au-dessus de nous, mais voilà, je crois juste à ça. Je crois que le monde, il ne s'est pas fait tout seul. » Mais moi, je leur dis « Mais vous ne croyez pas que cette force, elle a aussi des sentiments? C'est une personne qui veut, qui vous aime et qui a prouvé son amour en donnant son fils. » Souvent, on croit que oui, on est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais on ne veut surtout pas interagir avec cette chose-là. Alors que si nous avons la Bible entre les mains, c'est parce que nous voyons que Dieu a ce désir de manifester son amour dans nos vies. Si nous connaissons l'exemple de Jésus, c'est parce que nous voyons que Dieu a prouvé son amour. Je pensais au danger qu'il y a, oui, de fermer les yeux sur l'éternité, mais aussi de fermer les yeux sur Jésus. D'essayer de courir après Dieu sans passer par Jésus. Pensez à cet exemple du soleil. Soleil, c'est un danger pour les yeux. Je reviens à l'exemple des yeux. Et vous savez, j'espère que vous savez qu'il ne faut surtout pas fixer le soleil, parce que celui qui l'observe pendant trop longtemps peut devenir aveugle. Et le danger de fixer le Seigneur, de fixer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est parfait, par des hommes pécheurs comme nous le sommes, ben c'est laisser la mort, tout simplement. C'est impossible. Il est impossible que l'homme voie Dieu et reste en vie, nous dit la parole. Et il y a quelqu'un un jour qui a fait l'erreur, il avait un télescope pour regarder le soleil, et il avait toutes sortes de filtres pour justement que la lumière du soleil ne soit pas trop vive, pour que ses yeux soient protégés. Puis un jour, il était pressé, cette personne, et il a commencé à installer son matériel, et il a oublié de mettre les filtres. Mais il n'a même pas eu le temps de regarder la lunette. L'oculaire de la lunette a commencé à fondre devant lui, il a senti une odeur de cramé, et il s'est rendu compte que c'était son oculaire qui était en train de cramer tout déformé. Parce que la puissance du soleil et la chaleur du soleil est telle que ça fait comme ça. Imaginez un instant qu'un homme pécheur se permette de regarder le Dieu Tout-Puissant sans régler son péché. Le Dieu qui est saint, le Dieu qui est... Il n'est pas seulement saint, la Bible nous dit qu'il est magnifique en sainteté. C'est des choses qui nous dépassent, on a du mal à le concevoir. En tout cas, la Bible nous dit que c'est impossible pour un pécheur de regarder Dieu directement. Il a fallu qu'il envoie son Fils, qu'il a fallu qu'il envoie Jésus-Christ qui vienne prendre notre place. Il a fallu qu'il envoie ce filtre divin pour atténuer et qu'au travers de Jésus, Dieu puisse nous voir et nous puissions voir Dieu. Quelle grâce incroyable! Je pensais à ce moment où Jésus était sur la croix. Vous savez, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs, je l'ai déjà dit. Mais Jésus, lui, il était sans péché. Quand Dieu regardait Jésus, il ne voyait rien de mal. Quand Dieu regardait Jésus, il y avait toujours ce regard d'approbation, ce regard de faveur sur sa vie. Il était agréable à ses yeux continuellement. Mais à un moment donné, quand il était sur la croix, Dieu a été obligé de détourner son regard. Au point que Jésus ait dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui était sans péché. Ah, comme nous l'avons chanté, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de notre condamnation. Je crois que la souffrance la plus horrible, ce n'était pas les épines qui étaient dans sa tête, ce n'était pas les clous qui étaient dans ses mains, c'était cette souffrance d'être séparé de son Père, mais il l'avait fait de manière volontaire pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et le miracle dans cette histoire, non seulement il y a eu le miracle de la résurrection, Jésus a fermé les yeux, mais 3 jours après il les a ouverts et il est vivant pour l'éternité. Mais le vrai miracle, c'est que maintenant, Dieu, quand il nous regarde, il peut nous voir au travers de Jésus, au travers de son sang. Et il nous voit purs, il nous voit lavés. Et quand je réalise ces choses, je dis, Seigneur, quelle grâce tu nous fais. Quelle grâce. Oui, mais pour bénéficier de cela, il faut avoir la foi. C'est bien d'avoir des yeux en bon état. C'est bien que la lumière brille. Mais il ne suffit pas d'avoir seulement les yeux en bon état et la lumière qui brille. Quand on commence à voir, qu'est-ce qui se passe? On commence à réagir. Et s'il y a un danger, et qu'on voit par exemple qu'une voiture est en train de nous foncer dessus, et si on ne la voit pas, ben la voiture va nous rentrer dedans. Mais si on la voit, automatiquement on va faire quelque chose. Il va y avoir un mouvement de notre part. Et spirituellement, nous avons besoin de faire la même chose. Et leur réaction, elle est tellement simple. Mais j'aimerais qu'on puisse la lire. Et finir avec ceci dans Jean. Chapitre 1er, en fait, il y a deux réactions qu'on peut avoir, une bonne et une mauvaise, qui nous sont partagées dans ces versets. Jean chapitre 1er, verset 9, il est question de la véritable lumière. Dans le contexte, on comprend l'apôtre Jean est en train de parler de Jésus. Et au verset 9 du chapitre 1er, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Entre parenthèses, il peut y avoir des mauvaises lumières, des choses qui brillent dans ce monde et qui détournent notre vision. Mais cette lumière, la lumière de Jésus-Christ, est la véritable lumière. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La lumière a été envoyée, Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu a prouvé son amour, mais voilà ce qui s'est passé. Le monde qui a été fait par cette lumière, il ne l'a point connu, ne l'a point reçu. D'un côté, il y a ces personnes qui ont entendu parler de la lumière, ils ont vécu avec Jésus, il était là au milieu d'eux, et pourtant, ce sont les personnes qui l'ont crucifié. Et encore aujourd'hui, même si on ne le crucifie pas, puisque physiquement c'est impossible, dans notre vie, on le renie, on le rejette. Mais il y a de l'autre côté des personnes qui ont choisi de bien réagir, qui ont choisi de recevoir la lumière et qui ont choisi de croire en son nom. Le nom de cette lumière, c'est Jésus, je l'ai dit. Est-ce que ce soir, nous voulons faire partie de cette catégorie de personnes qui reçoit la lumière de Jésus et qui réagit de la bonne manière? Quand on en pense, on pourrait développer toutes sortes de métaphores par rapport à la lumière. Le fait que quand on a la lumière, on sait dans quelle direction aller. Le fait que quand on a la lumière, on sait où c'est qu'on va. Je pensais à cette simple idée que Jésus est en train de nous préparer une place. C'est-à-dire que quand on a fait la paix avec lui, quand on a reçu la lumière dans notre cœur, on sait que Jésus est en train de nous préparer une place auprès de lui. On a une assurance dans le cœur par rapport à ça, que beaucoup n'ont pas, même malgré la religion. Des religions qui promettent toutes sortes de choses par les œuvres, mais qui ne donnent aucune assurance par rapport au salut. Jésus nous la donne, mais il faut la recevoir. Il faut bien réagir. Bien réagir, ça veut dire, oui Seigneur, je vois que là, dans mon cœur, c'est noir, c'est mauvais. J'ai besoin que tu me laves par ton sang. Je veux me repentir, te demander pardon. Bien réagir, c'est Seigneur, je vois que je ne sais pas où aller. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu sois mon maître. J'ai besoin que tu sois mon Seigneur. C'est se convertir, laisser le Seigneur conduire notre vie. Si nous réagissons comme ça, je crois que la grâce et la paix de Dieu seront notre partage pour l'éternité. Ce soir, ne fermons pas les yeux sur Dieu. Au contraire, faisons cette prière. Avec le psalmiste, avec le roi David, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, mais plutôt que je marche sur le chemin de la vie. Amen. Merci Éternel pour ta parole. Merci parce que tu désires nous redonner la vue. Tu es venu sur terre, Éternel, pour nous permettre, au travers de ton sacrifice, du sang qui a coulé, nous permettre, nous qui étions des pécheurs à tes yeux, d'être totalement graciés, d'être totalement blanchis, d'être totalement justifiés. Seigneur, quelle grâce, oui. Nous le reconnaissons encore ce soir. Merci parce que tu es celui qui a la puissance de guérir les aveugles spirituels et physiques, Seigneur. Et nous croyons que ce soir encore, c'est ce que tu veux faire. Dans ces instants, oui, tu nous parles d'ouvrir notre cœur. Tu nous demandes, Seigneur, d'ouvrir notre cœur. Oui, nous voulons faire cette prière. Seigneur, donne cette clarté à nos yeux. Oui, nous voulons reconnaître que nos yeux sont fermés par toutes sortes de raisons, par l'hypocrisie, par, Seigneur, toutes sortes de failles dans nos vies, toutes sortes de choses qui sont là, par le péché qui règne, Seigneur. Mais nous croyons que tu es celui qui délivre de la puissance du péché. Alors dans ces instants, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui t'a ressuscité des morts, Jésus, fais ton œuvre dans les cœurs. Que ta lumière puisse briller. Que, Seigneur, au travers de ce que nous avons pu partager ce soir, des hommes et des femmes puissent reconnaître, oui, qu'il y a un soleil tout puissant, spirituel, qui brille au-delà de ce qu'ils peuvent voir de manière physique. Il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui les aime, il y a un Dieu qui veut diriger leur vie. Qu'ils puissent ressentir ce soir les effets de ton amour et qu'ils puissent accepter d'ouvrir leurs yeux et de recevoir cette lumière dans leur cœur. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.